Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Avez-vous déjà entendu dire que le malfaiteur qui fut crucifié avec Jésus devait se retrouver au paradis le jour de sa mort et y jouir depuis de ce que l'on appelle les béatitudes célestes? Une telle croyance est réfutée par les écrits de l'apôtre Jean. En effet, celui-ci a révélé près de 60 ans après la mort de Jésus et 35 ans après la mort de Marie, la mère de Jésus, ce qui suit. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Sachant que, pour être crédible, la Bible ne peut se contredire, laissons-lui le soin de nous éclairer sur cette contradiction apparente. L'apôtre Jean ne contredit en rien les déclarations que Jésus fit au malfaiteur. Examinons le récit tel qu'il nous est rapporté par l'apôtre Luc. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Par cette requête, le malfaiteur dévoile qu'il savait que le règne du Christ ne débuterait pas ce jour-là. Notez bien la requête du malfaiteur. Il ne demande pas à Jésus de l'emmener au ciel dès sa mort. Il lui demande tout simplement de se souvenir de lui lorsqu'il viendra dans son règne. Le Christ est-il déjà revenu sur la terre pour y régner et imposer la paix ainsi que les lois du gouvernement divin? Bien sûr que non. Il nous suffit de voir ce qui se passe dans le monde. Les guerres, les crimes, la famine, la drogue, les viols, la perversité, etc., pour se rendre compte que l'ordre et la paix ne règnent pas. Certains chrétiens affirment pourtant que le royaume de Dieu est déjà là, car il serait dans leur cœur. Mais si le royaume de Dieu était déjà dans le cœur des chrétiens, alors qu'il existe tant de dénominations chrétiennes avec leurs croyances particulières, le royaume de Dieu serait alors un royaume bien divisé, dont les lois seraient admises par certains et rejetées par d'autres. Or, Jésus a affirmé, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » L'apôtre Paul déclare aux Corinthiens, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Et Paul poursuit en demandant, « Christ est-il divisé ?» Il vous est donc très facile de comprendre, en voyant l'état du monde, ainsi que toutes les divisions au sein du christianisme traditionnel, que Jésus, le Christ, n'a pas encore établi son règne. Examinons alors la réponse que Jésus formula au malfaiteur, et, je le cite, en respectant la ponctuation telle qu'elle figure dans la version Louis II. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus pouvait-il se trouver ce même jour au paradis? Voyons ce qu'il avait prophétisé à la foule au sujet des événements qui suivraient son décès. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Autrement dit, « N'est-ce point là le Messie ?» Sachez que le nom Christ signifie « Messie », c'est par ce nom que les Juifs désignent le libérateur promis. Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Si le Christ devait bien rester 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, dans la tombe, comme il l'avait déclaré, alors il ne pouvait pas se retrouver dans le paradis ou dans son règne le jour même après sa mort. Dans notre brochure intitulée « Le Christ a-t-il prouvé sa divinité ?», nous expliquons en détail les événements qui entourèrent la mort du Christ. Si vous désirez la recevoir, il vous suffit de nous la demander et nous vous l'enverrons gratuitement, sans aucun engagement de votre part. D'ailleurs, lisons ce que le Christ déclara à Marie de Magdala qui le prenait pour le jardinier. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Le dimanche matin, Jésus n'était pas encore monté vers son Père. Pourquoi ? Parce qu'après les 3 jours et les 3 nuits, il devait accomplir le rituel de la gerbe, prémisse de la petite moisson du printemps. Paul écrit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Mais que s'est-il donc passé pendant ces 72 heures au cours desquelles il était dans le tombeau? Jésus était-il conscient ou inconscient? Que disent les Écritures à ce sujet? Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? David, entrevoyant sa mort, dit à l'Éternel, « Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? » Nous lisons encore, « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre confirme à la foule qui l'entoure, « David n'est point monté au ciel. » Quant à l'Ecclésiaste, il ajoute, « Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie, et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts où tu vas. » Ces passages suffisent pour démontrer que le défunt, qu'il ait été bon ou méchant, est totalement inconscient et qu'il le demeurera jusqu'au moment de sa résurrection. C'est pour cela que l'apôtre Jean déclare « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Comme tous les autres défunts, Jésus demeura inconscient pendant les 72 heures au cours desquelles il est resté dans le tombeau, et cela jusqu'à sa résurrection. Lui non plus ne pouvait pas louer Dieu, étant totalement inconscient. Certains prétendent que le Christ passa ces quelques heures à prêcher aux esprits en prison, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Voyons ce que l'apôtre Pierre écrit. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Dieu est esprit, tout comme les anges. Dès que Jésus fut ressuscité par la puissance de Dieu, qui est son Saint-Esprit, il reprit son corps spirituel, tout en pouvant toujours se manifester sous une apparence physique aux humains. C'est son corps spirituel qui lui permit de se présenter à ses disciples, les portes étant fermées, aucun obstacle physique ne pouvant arrêter ce qui est esprit. Les anges incrédules sont les anges déchus, qui ont préféré croire Satan plutôt que Dieu. Ils ont participé à l'attaque du trône de Dieu. Ils sont maintenant enchaînés par les ténèbres spirituelles. Et c'est auprès d'eux que l'Éternel, qui allait devenir le Christ du Nouveau Testament, est allé prêcher à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche, pour les avertir du châtiment qui leur sera infligé pour avoir trompé et séduit l'humanité. Mais pour en revenir à la requête du malfaiteur, il est important de déterminer où se trouve le paradis. Trois passages bibliques en parlent. Nous avons déjà vu la réponse de Jésus au malfaiteur. L'apôtre Paul eut une vision du troisième ciel, du paradis. Il découvrit en vision seulement le trône de Dieu. La troisième mention du paradis est faite par l'apôtre Jean, qui relate la promesse faite à l'église d'Éphèse. « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Dans sa description de la Nouvelle Jérusalem, la ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur, Jean mentionne « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. » Jésus a déclaré « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le mot « place » est traduit ici du grec « topos » qui signifie une position, une condition, un poste de responsabilité. Ces positions de responsables ne seront octroyées que dans le royaume, après le retour du Christ et ensuite dans la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel et qui, elle aussi, sera établie sur cette terre. Nous pouvons dès lors mieux comprendre la déclaration de Jésus au malfaiteur. C'est en ponctuant la phrase comme il convient que l'on peut résoudre cette contradiction apparente entre la déclaration de Jésus et celle de Jean. En fait, il est incorrect pour les traducteurs de placer la virgule avant le mot « aujourd'hui ». Elle doit être placée après, et alors tout s'éclaire en lisant « Je te le dis en vérité aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis ». Lors de la rédaction du texte original, l'usage de la ponctuation n'était pas encore établi. Ce système de signes fut mis dans le grec et le français des siècles plus tard. Son importance est grande, car il peut modifier le sens d'une phrase. Seule la Bible doit déterminer le sens correct de ce verset, et en assemblant tous les passages qui traitent de cet événement, elle nous montre que la virgule doit suivre immédiatement le mot « aujourd'hui » et non le précédé. Voici l'ordre des mots dans l'original grec, tels qu'ils ont été prononcés par Jésus. « En vérité, je te dis à toi aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » La suppression de la ponctuation des voiles, que le mot « aujourd'hui » détermine à lui seul le moment où Jésus faisait cette promesse et le moment de l'accomplissement de cette promesse, le moment où le malfaiteur se trouvera au paradis. Je poursuivrai ce sujet la semaine prochaine, si Dieu le veut.